Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons Gilles Luneau, bonjour.
Bonjour.
Ça va être beaucoup moins léger là, vous publiez un livre qui s'appelle Steak Barbare, un livre enquête sur la viande qu'on mangera demain. C'est une viande fabriquée à partir de cellules souches, alors pour qu'on sache bien de quoi on parle, on va commencer par ça. C'est quoi ce qu'on pourrait appeler la viande cellulaire ?
La viande cellulaire, c'est une viande cultivée. En fait, à partir d'une cellule, on prend une cellule de muscle, ce qu'on appelle une cellule souche, mais ça peut être même, pour de la viande de poulet, une cellule de plume, à la base de la plume, et on la fait se multiplier, c'est un phénomène naturel, hein. Donc dans un milieu de culture, qui reste à définir et qui est encore à l'étude, mais le principe c'est la multiplication cellulaire, c'est la base...
Donc c'est d'origine animale, mais on ne tue pas d'animal.
Voilà, exactement.
La NASA a travaillé dessus en 2001 déjà.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que au départ, ce sont des recherches de la NASA en vue des voyages spatiaux très lointains, quoi. On pense à Mars et ou d'autres planètes ou même une station sur la Lune. L'idée étant qu'on peut pas embarquer comme ça des tonnes de nourriture quand on part pour 6 mois de voyage.
Alors le 5 août 2013, là c'est la première présentation d'un steak in vitro, ça se passe à Londres. C'est un steak de 142 grammes qui a coûté 142 000 euros.
Oui, c'est ça. Et ce petit steak de 142 grammes, c'est le signal, on va dire, qui va déclencher l'émulation finalement de plein de laboratoires qui vont naître. Hein. Là-dessus, aujourd'hui, il y en a une cinquantaine.
Plein de start-up, on va en parler, mais avant ça, il faut quand même préciser qu'on arrive finalement quasiment à faire n'importe quoi aujourd'hui. Enfin, on fait des œufs brouillés sans œufs, on a des substituts de pommes, on a même du thon à base de cellules souches, on fait quasiment tout.
Oui, des fruits de mer, tout ça est encore au stade expérimental de laboratoire, n'est pas encore... n'a pas encore le droit d'être dans le commerce, et puis il y a des problèmes de production de masse, on va dire. Pour le moment, ils ont résolu la question scientifique de le faire, ils n'ont pas résolu le passage à l'échelle industrielle.
Alors, vous le disiez, il y a donc derrière ça tout un mouvement de start-up qui sont nés, vous êtes allés justement les rencontrer, voir sur place pour les interroger. Ça se passe essentiellement à San Francisco, et finalement, il y a un rapport quelque part entre la Silicon Valley, hein, ceux qui sont les génies du numérique et les GAFA d'aujourd'hui, et cette nouvelle alimentation.
Ben, il y a un rapport financier, c'est-à-dire que la Silicon Valley, les milliardaires du numérique, hein, ont de l'argent à foison, finalement. Je vous prenais Mark Zuckerberg, enfin, qui donne 500 millions de dollars à un fonds, qui place en particulier dans la viande in vitro et dans le soutien aux organisations véganes. Parce que les deux sont liés, c'est les mêmes fonds, hein, et c'est ce que je montre dans mon enquête. Je veux dire, il y a une collusion, en fait, objective, quoi, entre financer les organisations véganes, les organisations antispécistes, celles qui attaquent les boucheries, celles qui répandent de la peinture rouge et qui font du happening comme ça. On montre des images horribles, à juste titre, hein, de la production industrielle de viande. Je ne veux même plus parler d'élevage, parlons de production industrielle de viande. Et ils ont raison de dénoncer ça. Par contre, derrière, vous avez... On va pas retourner à un élevage respectueux des animaux, enfin ce qu'on connaît d'agriculture paysanne, pour faire très court, mais on vous propose à la place... un substitut, produit industriellement toujours, qui s'appelle la viande in vitro.
Donc si je vous entends, les véganes seraient le cheval de Troie de cette nouvelle industrie de la viande in vitro.
Oui, absolument. Hein. Et le marché, pour répondre complètement à votre question, le marché c'est celui des omnivores, c'est-à-dire que le grand marché, c'est le marché des pays en voie de développement, c'est l'Inde, c'est la Chine. C'est pas parce qu'on est vegan et à la tête d'empire du numérique ou de start-up qu'on vise pas ce marché-là. Bill Gates est le premier à financer, Branson est le premier à financer la viande in vitro.
Donc il y a une convergence quand même entre effectivement l'industrie du numérique d'aujourd'hui et les GAFA d'un côté et la viande in vitro, la nouvelle alimentation qu'on nous prépare demain également.
Absolument. Ce même réseau finance les start-up de la viande in vitro.
C'est une génération, vous le dites dans le livre, hein, c'est une génération de cadres. Effectivement, formés au numérique, sensibles aussi à la question du transhumanisme, sont des gens qui se prennent, je caricature peut-être, mais pas vraiment, pour Dieu, quoi. C'est-à-dire, on refaçonne l'homme et on refaçonne la manière dont la nature fonctionne aujourd'hui.
Oui. Ils se sentent investis d'une mission, c'est-à-dire que l'alerte que le monde connaît par rapport au climat, à la biodiversité, à la question de la démographie et de nourrir tout le monde, ils se l'approprient en disant « nous, on va sauver le monde, on a une solution ». On a une solution, c'est de prendre ce marché-là.
Parce que ça règle tout, là. On tue plus d'animaux, il n'y a plus de souffrance animale, il n'y a plus d'émissions de carbone, de CO2, on règle le problème de la planète, et en plus, on peut nourrir tout le monde.
Oui, sauf qu'on règle aucun problème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des biens intellectuels dans ce discours-là, que ça soit sur le climat, que ça soit sur la biodiversité, que ça soit sur nourrir le monde.
C'est quoi les biais ?
Ben, il y en a plusieurs. Bon, d'abord, il y a des vraies fadaises sur faire croire aux gens qu'un kilo de bœuf consomme 15 000 litres d'eau. C'est-à-dire qu'ils calculent la pluie qui tombe sur la prairie, que le bœuf broute. Mmh. Je veux dire, vous enlevez le bœuf, la pluie tombera toujours, l'herbe elle poussera toujours.
Enfin, voyez, le méthane, ça provoque quand même des gaz à effet de serre. Ça, c'est une
réalité. Oui, absolument. Mais la prairie absorbe le CO2, fixe du carbone, si vous voulez, qui compense. Ça dépend des endroits, parce que c'est quand même très variable, hein. Mais on est entre 30 et 80%, je cite les chiffres de l'INRA, hein, ça sort pas de ma tête, d'absorption de gaz à effet de serre par une prairie.
Alors, on parlait des enjeux financiers qui sont absolument énormes. Vous dites, vous, qu'il y a une bulle financière qui est en train de se créer autour de cette problématique.
Oui, il y a déjà, depuis le début, qui est quand même relativement récent, on va dire 2013-2014, on en est à 14 milliards de dollars d'investissement. Ce qui est quand même pas rien. C'est un vrai signal, on va dire, pour les investisseurs. Et il y a tout un réseau, je vais dire, de capital risqueurs, de toutes ces sociétés, ces grandes sociétés, hein. Vous prenez la fondation, enfin, Jérémy Coller, qui est un des plus gros.
Un homme d'affaires britannique,
qui a une société d'investissement, de conseil en investissement. C'est la première mondiale sur le second marché, qui aujourd'hui oriente ses clients, qui sont d'énormes sociétés, pour mettre dans la viande in vitro et les substituts à base de protéines végétales.
Bon, cela dit, cette viande aujourd'hui, on peut pas la manger. D'abord, elle n'est pas autorisée. Et par ailleurs, il y a quand même un gros lobby aussi de l'élevage en France et en Europe.
Il y a un gros lobby de l'élevage, mais les tenants, les plus forts de ce lobby-là sont en train de passer à la viande in vitro. Ils prennent pas le risque. Les plus gros opérateurs de viande du monde, JBS, qui est brésilien, qui est le plus gros opérateur, le deuxième qui est Tyson Foods, qui est américain et qui tient le marché américain, et pour partie l'étranger, Cargill, qui est la plus grosse société agroalimentaire du monde, investissent aujourd'hui dans la viande in vitro. C'est-à-dire que ils détectent dans le comportement, on va dire, d'achat, l'érosion de la consommation de viande dans un certain nombre de pays occidentaux. Ils se disent, oh là là là, on va pas perdre ça. Et donc,
ils font le pari que le marché est porteur et que la réglementation suivra?
Oui, ils font le pari de la substitution d'un marché par un autre. Ça va très très vite. Il y a déjà du lobbying sur les politiques aux États-Unis, en Europe, pour faire passer de l'acceptation de la viande in vitro légalement, quoi, dans la traduire en termes légaux.
Ça veut dire qu'il y aura plus de fermes demain?
C'est un risque. Je pense que c'est un vrai risque. Alors quand vous les interrogez, ils disent « mais non, il restera l'agriculture comme vous la connaissez en France, bio, paysanne, ça sera une niche. Ça sera une niche avec de la viande plus chère. » Moi, j'y crois pas, parce que quand les mêmes disent, on reprend leur déclaration, les mêmes disent « notre but, c'est d'éliminer l'élevage ». Parce que au bout, il y a un gain de productivité. On s'embête plus avec les animaux, on s'embête plus avec les paysans.
Bah écoutez, nous voilà prévenus, on sait maintenant à quoi s'attendre. Donc pour ceux que ça intéresse, je rappelle que votre livre, Gilles Luneau, s'appelle Steak Barbare, et je précise qu'il paraît aux éditions de l'Aube.